RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Salut à tous, c'est parti pour Motors jusqu'à 14h, évidemment, comme tous les dimanches sur RMC. Installez-vous bien, il est 13h05 et on salue évidemment Jean-Luc Roy. Bonjour Jean-Luc.
Eh bien, bonjour Arnaud. Bonjour.
Comment ça va ce dimanche, ce beau dimanche?
Mais écoute, ça va formidablement bien puisque toutes les saisons ont démarré, que ce soit en Formule 1 ou en GP Moto. Donc c'est un vrai bonheur.
Même si c'est week-end de relâche, hein, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça n'empêche pas évidemment nos Motors son programme exceptionnel avec d'abord donc le MotoGP au menu dans un instant. Johan Zarco, le pilote français, sera avec nous pour revenir sur le Grand Prix du Qatar la semaine dernière. On se projettera également vers la suite des événements, les prochaines courses et notamment le Grand Prix de France au Mans qui a été présenté cette semaine, qui se déroulera au milieu du mois de mai. 13h25 dans le Tour de Chauffe, il sera question de Formule 1 aujourd'hui après la victoire de Valtteri Bottas à Melbourne lors du Grand Prix d'Australie la semaine dernière. À quoi faut-il s'attendre pour la suite de la saison? Réponse avec toi Jean-Luc et avec Patrick Lemarié, l'ancien pilote d'essai, qui sera également notre invité. Et puis à 13h45 dans Radio Paddock, Benoît Boutron nous rejoindra, notamment pour évoquer la possibilité d'un Grand Prix de Formule 1 à Miami. On vous donnera également des nouvelles de l'IndyCar. C'est à Austin que ça se passe. C'est parti pour Motors.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droite, 320.
Le briefing.
Eh oui, le briefing. On commence donc, comme promis, avec le championnat du monde de MotoGP. Jean-Luc, la première manche de la saison a été enlevée il y a 15 jours par l'Italien Andrea Dovizioso devant l'Espagnol Marc Marquez. Premier Français, Johan Zarco, il s'est classé 15e. Bon, c'est pas la meilleure course de sa carrière, effectivement. Il aura forcément, justement, envie de rebondir dès la semaine prochaine à Rio Hondo, en Argentine. Et il est avec nous, Jean-Luc, Johan Zarco. Bonjour, Johan.
Oui, salut.
Et merci d'être en direct avec nous, je t'en prie Jean-Luc.
Oui, salut Johan, merci beaucoup d'être avec nous. On s'est vu mardi lors de la présentation du Grand Prix de France Moto, on en reparlera bien sûr, c'est 17, 18, 19 mai au Mans naturellement. Alors d'abord, je te remercie infiniment d'être avec nous en direct dans Motor, c'est un vrai plaisir. Pour expliquer justement un petit peu le pari que tu as fait, on l'avait commenté l'an dernier également, c'est que tu as choisi de quitter l'égide de Yamaha, le constructeur japonais, pour partir chez KTM, le constructeur autrichien. Alors on sait bien que c'est un développement à long terme, Johan. Justement, on en a parlé ensemble, mais j'aimerais que tu me redises à l'antenne justement ce qui est expliqué. Qu'est-ce qui pêche le plus pour le moment dans le comportement de la KTM? Est-ce que c'est au plan châssis ou tu dois encore travailler ce châssis? Par parenthèse, j'ai cru lire une déclaration des responsables de KTM qui disent qu'a priori, on ne remet pas en cause la structure fondamentale du châssis. C'est exact?
Oui. En effet, il y a pas mal de développement à faire, mais sans remettre en cause la structure du châssis, qui est un châssis tubulaire en acier, en comparaison des autres qui ont des châssis en aluminium et pas des tubes. Donc, c'est un choix stratégique, mais vraiment pour qui représente la marque KTM. Et en tout cas, en théorie, rien n'empêche de pouvoir égaler les meilleures marques japonaises. Ils le font en tout terrain de belle manière. Maintenant, sur la catégorie vitesse, ils ont seulement 2 ans d'expérience et on sent que la moto a encore beaucoup de points à travailler, à développer pour arriver au niveau. J'ai terminé 15e au Qatar avec un objectif de top 10, mais j'ai terminé 15e à tout juste finalement 15 secondes du premier. C'était encourageant. C'était un sentiment de soulagement aussi et ça permet de viser l'Argentine encore une fois dans le top 10 parce que je sens que même avec le niveau de matériel que j'ai actuellement, il y a possibilité d'être dans ce top 10 et donc se construire une vraie base pour l'équipe.
Ben oui, c'est un travail à long terme, hein, nous l'avons dit. Je rappelle que l'an dernier, on parlait du Grand Prix de France Moto. Tu avais signé la pole lors de ce Grand Prix de France Moto au Mans. Donc c'est un circuit que tu apprécies évidemment particulièrement, où tu seras soutenu par tout le public. Parlons peut-être des perspectives à plus court terme également. Au plan moteur, et tu as souligné également l'écart seulement de 15 secondes entre le vainqueur, Dovizioso et sa Ducati, et la KTM. Au plan moteur, tu la situerais comme on vient de parler du châssis, cette KTM. Est-ce qu'elle a beaucoup pas progressé ou pas tellement finalement, et au plan de l'utilisation également de ce moteur?
Non, je pense que le moteur est plutôt bien né, en tout cas celui que j'ai découvert. Il y a des évolutions prévues pendant l'année, mais principalement c'est réussir à rendre ce châssis plus facile à utiliser, mais sans en changer sa structure, simplement en y changeant un peu le balancement de la moto d'avant en arrière. Et il y a aussi un travail électronique parce qu'on a plus de 270 chevaux à utiliser, à pouvoir placer sur la piste. Et ça, voilà, cette combinaison moteur plus électronique, mais d'abord l'électronique pour mieux ajuster tout plein de détails. C'est là, à mon avis, le travail fondamental.
Alors, sans être justement trop technique, mais dans Motors, on peut se le permettre, on a des auditeurs très très pointus, on rappelle que c'est la même électronique en MotoGP qui s'applique à toutes les machines. En l'occurrence, là, tu dois l'utiliser différemment sur ta KTM de ce que tu faisais avec la Yamaha.
Alors, j'ai pu découvrir ça. C'est vrai qu'on a tous le même électronique, et je pensais donc avoir des sensations très similaires à ma moto de l'an dernier. Mais finalement, c'est un système idem pour tout le monde, mais très complexe. Et le fait qu'il soit complexe, eh bien, il y a plein de voies différentes, de manières différentes pour l'utiliser, et ça change le comportement de la moto. Et ça, j'ai pu même voir quand même que les Japonais, avec plus d'expérience actuellement que les Autrichiens dans la catégorie, ont mieux abordé ce système unique que pour l'instant mon équipe.
D'accord. Johan, on rappelle que tu es double champion du monde en Moto2. Et moi, j'avoue que tu m'avais sacrément bluffé quand tu avais décidé de rester dans cette catégorie pour décrocher un deuxième titre d'affilée. Évidemment, le succès que tu as remporté une deuxième fois a démontré que c'était la bonne solution. Je rappelle aussi une chose qui est très importante, mais les auditeurs de Motors le savent, c'est que KTM a triomphé dans toutes les catégories à moto dans lesquelles il s'est engagé jusque-là. Donc, c'est ce qui t'a aussi décidé à confier et à partager ton destin avec l'usine autrichienne.
Oui, ça a beaucoup pesé en la faveur de savoir qu'ils, dans l'histoire de la moto, à chaque fois qu'ils ont pu entreprendre un sujet, ils ont réussi à gagner, même en Formule 1, sans que ça soit KTM. C'est quand même Red Bull qui a voulu investir dans la Formule 1 à un moment donné, et ont réussi à prendre des titres. Donc ça, c'est un facteur important. Ça. Et après, humainement, on voit que l'équipe et la marque est très motivée et me voulait beaucoup. Et finalement, dans l'ouverture d'esprit, disons, européenne, et la communication qu'on peut avoir, eh bien, ça donne envie de rentrer dans ce challenge.
Oui, c'est le fait de rouler effectivement pour une usine européenne. Il y en a pas tellement. Enfin, il y a Ducati, évidemment, on va pas les occulter. Alors, on sait, on va y revenir, que Honda te faisait la cour également. Tu avais une place qui t'était réservée en priorité, d'ailleurs, aux côtés de Marc Marquez chez Honda. Et puis, c'est parce que tu as senti que de toute façon, il fallait cohabiter avec Marquez, qui est un ogre. Hein. C'était un petit peu difficile de toute façon.
Oh oui, sans doute. Mais bon, là, que la saison a attaqué, on voit finalement que je pensais, moi, la Honda plus difficile à conduire que ça. Mais quand j'ai vu finalement la bonne adaptation de Jorge Lorenzo, qui finalement a pris cette place à ma place, c'est beaucoup mieux adapté que lorsqu'il a découvert la Ducati. C'est vraiment signe qu'il y a un esprit japonais dans ces motos-là qui permet de mieux dompter la machine et de mieux l'apprivoiser, on va dire. Alors que là, sur la 4ème, il y a beaucoup plus de travail à faire. Mais ça, c'est en tout cas sans regret, parce que je sens que je pars de loin, mais si je peux y arriver, ça sera que meilleur.
Allez, bienvenue si vous nous rejoignez en direct sur RMC, les 13h13, c'est Motors, c'est ton invité, Jean-Luc, aujourd'hui, c'est Johan Zarco, le pilote de MotoGP.
Eh oui, double champion du monde de Moto2, je le rappelais il y a un instant, et lancé dans un défi d'importance avec l'équipe autrichienne KTM en MotoGP. On va parler du Grand Prix à venir. Comment appréhendes-tu ce tracé de Termas de Rio Hondo, hein? C'est un peu perdu au fin fond de l'Argentine. Mais est-ce que tu le sens bien? D'abord, c'est un Grand Prix diurne, celui-là, donc peut-être ce sera plus facile de faire travailler les pneumatiques avec une température peut-être plus normale, non, Johan?
Oui, c'est un facteur important pour moi, le fait que la piste peut chauffer plus facilement, parce que déjà, ça sera en pleine journée que la piste du Qatar. Ouais. Ça peut m'aider à mieux sentir les pneus, et c'est une piste que j'aime beaucoup. J'ai eu de très bons résultats les 4 dernières années. Donc mes 2 dernières années en Moto2, où j'ai eu une victoire à chaque fois, et ensuite en MotoGP où j'ai fait 5e et ensuite 2nd. Donc ces bons résultats me font aimer la piste, et je veux vraiment me concentrer et essayer de prendre le rythme le plus rapidement possible dès le vendredi pendant les essais pour bien diriger l'équipe et obtenir l'objectif du moment, qui est les 10 premiers.
Ouais, le top 10, c'est ce que tu nous as dit. Alors, il n'en était pas très loin, ton équipier, Paul Espargaro, qui termine donc 12e du Grand Prix du Qatar. Par parenthèse, comment ça se passe avec lui en termes de cohabitation et même de travail? Parce que j'imagine qu'évidemment, les tentatives de développement ou d'essai, vous les partagez entre les deux pilotes d'usine.
Oui, on s'entend très bien. C'est une personne vraiment superbe. Et un beau sportif, parce qu'il est très courageux. Lui, combat la moto et il aime combattre la moto. Moi, c'est oui. Moi, mon avis, je préfère y aller avec finesse. Donc finalement, on a du mal à vraiment coller nos informations. On rencontre des fois les mêmes problèmes, mais on veut pas le solutionner de la même manière.
Je comprends. Donc,
ça met pas de problème au sein de l'équipe. Simplement, il faut mieux rester concentré de mon côté et avancer.
Et puis à tes côtés, lors de cette présentation du Grand Prix de France mardi dernier, il y avait donc également Miguel Oliveira. Alors lui, c'est le champion du monde Moto2 qui est monté en MotoGP avec l'équipe Tech 3. Qui est également qui partage aussi cette machine avec Hafiz Chiarine, pardon, que tu connais bien. Alors, question que je t'avais posée aussi, mais j'aimerais avoir à nouveau ta réponse pour nos auditeurs. Est-ce que le fait que Tech 3 soit passé également chez KTM, c'est un appui pour toi, un soutien peut-être technique pour partager quelques infos avec cette équipe satellite?
Oui, ça aide de ce côté-là, mais surtout je pense que pour KTM, ça fait toujours une somme d'informations en plus à analyser, et donc ils ont tout le staff technique pour pouvoir analyser toutes ces informations supplémentaires, et des fois sur des réglages qu'on peut essayer, ça fait aussi avoir des confirmations. Il n'y a pas seulement qu'une moto, mais au moins trois motos qui fonctionnent sur ce réglage, ou quatre motos, et ça permet de mieux s'éclaircir le chemin, on va dire.
Bien sûr. Alors, la bonne nouvelle également, c'est qu'en MotoGP, tu es rejoint par un autre Français talentueux, Fabio Quartararo. On l'a vu briller lors des essais, même lors des essais qualifs. Bon, malheureusement, il l'a reconnu honnêtement, il s'est un peu loupé au moment du départ, mais ça, c'est le métier qui rentre. C'est bon pour toi aussi, et c'est bon pour la moto en France, d'avoir deux pilotes comme vous dans la catégorie reine. Puis en plus, vous avez terminé l'un derrière l'autre. Hein, toi, juste devant, 15e et 16e au Qatar.
Ouais, il a été gentil avec moi de pas dépasser pour me laisser le point de la 15e place. Et un pilote très doué, très jeune, qui même malgré son jeune âge a quand même déjà pas mal d'expérience en Grand Prix. Et surtout, oui, c'est une bonne chose pour la moto en France, puisque j'ai vu moi avec mes bons résultats, la notoriété qui est montée très vite et un certain engouement que peuvent prendre même les médias et le grand public autour de la moto. Et si on est deux, on sera que plus fort.
Alors, tu parlais de cet objectif du top 10. Bon, là aussi, il faut laisser le temps faire son œuvre, parce qu'évidemment, lors des Grands Prix un petit peu éloignés, comme ça, après l'Argentine, on rappelle que vous partirez au circuit des Amériques, hein, Austin, qui est un circuit particulier. Il va peut-être y avoir des développements à venir, à court terme, c'est-à-dire avant le Grand Prix de France, ou il faudra attendre un petit peu, peut-être qu'au Grand Prix de France, justement, on verra arriver des nouveautés.
Oui, c'est courant mai, donc je pense que ça sera surtout sur le premier Grand Prix,
pour l'Espagne.
La première course européenne en Espagne. Et après l'Espagne, il y aura des essais avant le Grand Prix de France, et là, il peut y avoir de nouvelles choses sur la machine.
Alors, on parlait de pneumatiques et d'exploitation de pneumatiques. Effectivement, l'arrivée de Michelin, tu l'as connu également. Est-ce que c'est le travail avec les techniciens Michelin et j'ose dire plus facile pour toi français, ou pas du tout? Vous échangez en anglais de toute façon tout le temps?
En off, on peut échanger en français, mais après, Michelin maintenant développe vraiment les pneus pour pouvoir s'adapter à chaque moto, donc ça permet d'avoir un pneu très constant, et la performance est des fois plus dure à aller chercher, mais une fois qu'on trouve les bons réglages, ensuite le pneu fonctionne à merveille. Donc eux, je pense que toutes les infos que je peux dire, c'est pour justement, ça leur permet de comprendre en fait les différences de moto, les différences de réglages entre les marques, mais ensuite ils essaient de faire quelque chose le plus homogène possible pour que tout le monde puisse être satisfait.
Alors, Joël Zarco avec nous, bien sûr, dans Motors. Il y a une expression que tu utilises souvent et que moi j'aime bien quand tu dis ça fait grandir. Est-ce que le fait d'avoir quitté Yamaha et quitté Tech 3, hein, qui est une équipe française, l'équipe d'Hervé Poncharal que je salue, qui nous écoute certainement, et partir dans cette équipe d'usine autrichienne, ça t'a fait grandir?
Eh bien, déjà, le simple fait d'être pilote officiel, ça fait grandir, puisque beaucoup plus de techniciens autour de moi, et ça m'oblige à avoir des comptes rendus, des explications de sensations beaucoup plus détaillées que ce que je pouvais faire avant. Mmh. Et ensuite, passer, d'une Yamaha à une KTM, c'est encore grandir en tant que pilote et prendre une expérience supplémentaire. Donc, même si c'est pas gagnant dans l'immédiat, tant que je reste motivé et hargneux au fond de moi, eh bien, ça portera ses fruits.
Oui, mais ça, il y a pas de problème. On sait que c'est un projet à long terme. Ton contrat avec KTM, sans trahir de secret, ou peut-être peux-tu le dire, c'est un contrat multisaison, bien sûr. Tu vas rester au moins 2 ans chez eux, j'imagine.
Oui, pour l'instant, c'est au moins 2 ans et on verra notre évolution.
D'accord, on verra ça, effectivement. Alors, je parlais de langage également avec les échanges et les techniciens Michelin français, mais tu parlais, j'imagine, en français avec les gens de Tech 3, évidemment. Est-ce que vos échanges se font en anglais et est-ce que tu es même en train de parler d'apprendre l'autrichien? Je dis n'importe quoi, parce que je sais pas s'il y a beaucoup d'ingénieurs autrichiens dans l'équipe, en fait.
Il y a beaucoup d'Autrichiens et d'Allemands, mais on discute en anglais, hein, vraiment. Il y a des Hollandais aussi, c'est l'anglais, la langue principale. Et même au sein de Tech 3, le simple fait qu'il y avait un technicien anglais ou 2 Japonais autour de nous, eh bien, les commentaires étaient en anglais. Donc, non, c'est l'anglais la langue courante, en tout cas en MotoGP. Dans certaines équipes, ça peut être l'italien ou l'espagnol. Mais pour moi, c'est l'anglais maintenant. Et ça va.
Tout va bien.
Avec l'expérience aussi, c'est courant maintenant.
Tu te débrouilles. Alors, dernière petite question, parce que malheureusement, le temps passe et on sait que dans une semaine, tu seras en Argentine pour ce 2e Grand Prix de la saison. Question sur les réclamations qui ont été portées contre la Ducati de Dovizioso, qui a remporté le premier Grand Prix au Qatar. Alors, je te demande pas, évidemment, de prendre position par rapport à ton équipe, mais est-ce que tu crois que ça procure vraiment un avantage? On a vu cette espèce de dérive devant le pneu arrière. Et puis, je croyais également une sorte de carénage des disques, hein, sous les disques avant.
Aucune idée. Je me suis pas trop penché
D'accord.
sur la polémique.
Ouais, ouais.
Donc, non, je peux pas vraiment dire. Et je suis vraiment concentré. Ça, c'est un travail de technicien pour savoir si c'est mieux ou pas.
T'as bien raison. Johan, voilà, optimiste donc pour ce Grand Prix d'Argentine et surtout attendant des développements, et ça j'ai bien retenu, pour l'arrivée de MotoGP en Europe, c'est-à-dire le Grand Prix de Jerez qui précédera le Grand Prix de France.
Merci Johan Zarco d'avoir été avec nous en direct sur RMC.
Avec plaisir.
Et bon courage pour le reste de votre saison. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur.
Et tu reviendras nous voir dans Motors.
Merci.
Dans un instant, dans Motors, Jean-Luc, on va parler de Formule 1. Et oui, là aussi, ça fait relâche. Le paddock fait relâche ce week-end. Mais ça va vite revenir, les Grands Prix. On va se projeter justement sur la suite de la saison. On sera avec Patrick Lemarié dans un instant, ancien pilote d'essai de Bar F1, qui nous donnera aussi son avis sur ce début de saison et sur les semaines à venir. 13h22, Motors revient dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC Motors Armesou Jean Lecroix.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC. C'est Motors évidemment, comme tous les samedis jusqu'à 14h. Et tout de suite on va parler de Formule 1.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Eh oui, le paddock fait relâche ce week-end après le Grand Prix d'Australie sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne, remporté dimanche dernier en ouverture par le Finlandais Valtteri Bottas. On va d'ores et déjà, mon cher Jean-Luc, se projeter sur le Grand Prix de Bahreïn. Ce sera dimanche prochain à Sakhir. Tiens, ton invité est là, je crois, en ligne. Il s'agit de Patrick Lemarié. Bonjour Patrick Lemarié.
Bonjour à tous.
Et merci d'être en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien pilote d'essai, notamment chez Bar Formule 1. Et on a évidemment plein de choses à vous demander et plein de discussions à avoir avec vous, Jean-Luc, je t'en prie.
Oui, bien sûr. Salut Patrick, merci d'être avec nous. On va parler bien évidemment tout à l'heure de l'opération que tu as mis en place avec Jacques Villeneuve, hein, Feed Racing, une initiative, on va dire, nouvelle et qui a pour but de promouvoir et de détecter de jeunes pilotes de manière internationale. Donc un vrai régal, parce qu'on en a besoin évidemment à tous les niveaux. Mais si tu veux bien, on va d'abord revenir sur ce premier Grand Prix d'Australie de la saison 2019 que tu as suivi de près. Alors, première question, on va dérouler un petit peu dans l'ordre. Chez Mercedes, est-ce que tu as été surpris par la performance de Valtteri Bottas ou à l'inverse, est-ce que tu as été déçu par celle de Lewis Hamilton et que s'est-il passé, à ton avis, pour que le Finlandais domine autant le Britannique?
Alors, bonjour à tous. D'abord, la surprise, elle vient surtout de Bottas, je pense, parce que on sait toujours qu'il est quand même assez largement dominé par Lewis, à part une ou deux fois par an, et notamment en Russie. Et là, c'est vrai qu'il a fait un week-end parfait. Alors, est-ce que c'est sa préparation mentale? On l'a vu revenir avec la barbe, un peu plus viril, un peu plus hargneux. Mais bon, c'est quand même assez étrange de voir Lewis de pas avoir le jour de tout le week-end.
Oui. Alors après, t'as vu l'écurie a annoncé qu'il y avait effectivement une détérioration de son fond plat. On a même vu quelques photos circuler. Bon, c'est possible qu'effectivement il ait perdu une partie de son adhérence. Apparemment, c'est l'équilibre de sa monoplace que ça a affecté. Tu y crois ?
Oui, c'est fort possible, hein, même si Louis n'en a pas parlé. Ouais. Je crois que de toute façon, il y a un début de championnat, il faut marquer des points. Si Louis avait abandonné, on aurait peut-être eu une déclaration un peu plus agressive de sa part. Là, il a marqué les points, il est deuxième, il sait qu'il contrôle Valtteri sur un championnat. Donc je pense que pour l'instant, il n'y a pas trop de panique.
Ouais, il n'y a pas panique à bord, effectivement. Alors on déroule, comme je l'ai dit, dans l'ordre du classement. Le troisième, c'est Verstappen. C'est pas vraiment une surprise, mais collé au basque d'Hamilton et avec un dépassement absolument imparable sur Vettel, bah, j'oserais dire, c'est ça qu'on apprécie chez Verstappen, c'est qu'il ose.
Oui, on connaît Max, hein, c'est quand même une bouffée d'oxygène pour la F1. Ouais. Il est en pleine confiance, il a le support complet de l'équipe. Et puis, il y a ce moteur Honda, donc, est-ce que ça va être la surprise de l'année ou est-ce que ça va être, éphémère? Parce qu'on sait qu'ils avaient réussi à trouver un peu de performance l'année dernière, mais aucune fiabilité. Donc là, on sait que Max a été très agressif avec Renault sur les peu de problèmes qu'ils ont eu en fiabilité. Et on serait assez surpris de voir quand même le moteur Honda, performant et fiable pendant toute la saison. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'être le package a l'air de fonctionner et on a vu un Max vraiment performant. Donc ce qui apporte un peu de plaisir de voir la Red Bull performante en début de saison.
Ben oui, puis ça nous intéresse à un autre titre, hein, puisqu'il y a un certain Pierre Gasly, un pilote français évidemment qui a intégré l'équipe. On va en parler dans un instant. Tu connais très bien Honda puisque on l'a dit, tu as été plusieurs saisons pilote essayeur de chez Bar Honda aux côtés de Jacques Villeneuve qui est ton vieux pote. Et on l'avait fréquenté ensemble longtemps aux États-Unis même avant qu'il arrive en Formule 1. Donc ton sentiment sur ce moteur Honda et ce travail des ingénieurs japonais, c'est quand même effectivement, il va falloir voir en termes de fiabilité, mais en termes de performance, on a même vu en vitesse de pointe qu'elles étaient très très rapides ces Red Bull, et même les Toro Rosso d'ailleurs.
Oui, non. Ce qu'on a vu, nous, quand on a travaillé avec Honda pendant ces années, c'est que ils sont motivés. Il y a de la qualité, mais il y a un très gros problème de communication avec l'équipe. Donc ils travaillent souvent dans leur coin et ils amènent des solutions qui sont pas vraiment adaptées avec ce qu'a fait la partie technique, notamment tout ce qui est partie aéro. Ils arrivaient avec des solutions avec un moteur différent alors qu'on avait déjà fait l'aéro de la voiture. Donc c'était très perturbant et c'est ça un peu qui pêche. Par contre, leur envie, les moyens qu'ils mettent, la qualité des gens qui y travaillent, c'est pas à redire. Maintenant, c'est cette communication. Donc, si Christian Horner et tout le team Red Bull arrivent à faire communiquer Honda avec eux et les faire travailler ensemble, on va peut-être avoir des bonnes surprises.
Ben, c'est clair que ça commence plutôt pas mal, hein, puisque je l'ai dit, si ça fonctionnait très très bien pour Red Bull Honda, avec cette troisième place, déjà un premier podium, et on le signale quand même, c'était le premier podium de Honda depuis son retour officiel en Formule 1. C'est pas rien quand même, notamment avec la nouvelle réglementation.
Non, c'est pas rien et je pense que ça a dû amener du baume au cœur à tout le monde et surtout je pense qu'il y a une méthodologie de travail entre le team et Honda avec Red Bull et c'est sûrement aussi pour ça qu'ils ont ces résultats là mais bon faut quand même rester assez un peu sur ses gardes parce que la communication est quand même assez difficile et ils ont tendance à retourner dans leur travers assez vite mais bon je pense que Red Bull et Christian Horner qui ont beaucoup d'expérience savent comment ils fonctionnent et on su un peu prévoir ce genre de soucis en amont.
Ouais, ils ont dû mettre les choses au point. On en vient à Pierre, justement, Gasly, maintenant, qui avait été performant, même s'il a connu deux petites sorties de route pendant les essais hivernaux, mais ça, c'est le métier qui rentre, comme on dit, et puis il y a eu une au moins, je pense, c'était un problème technique, mais j'en reviens au fait là qu'on ne lui ait pas permis d'effectuer une deuxième tentative en qualif. Alors évidemment, le pauvre, partant du fond de la grille, il avait du mal à sortir, et là, en l'occurrence, il a buté à la porte des points. Globalement, qu'est-ce que tu penses de sa prestation là-bas, en Australie?
Écoute, la Pierre a énormément de talent et la grosse difficulté qu'il va avoir maintenant, c'est de pouvoir survivre à côté de Verstappen et dans une équipe aussi compliquée que ça. C'est pas du tout la même approche que d'être dans une équipe comme Toro Rosso où à chaque fois qu'on marque un point, c'est un exploit. Non. Là, il faut être dans le top 3, dans le top 5 tout le temps. Il faut être aussi performant de Max. Il faut gagner des courses. Il faut gagner un championnat parce qu'il est pas là pour être la roue de secours de Max Verstappen. Il est là pour gagner des courses et pour gagner du championnat. Donc ça, il va falloir qu'il rentre rapidement dans cet état d'esprit-là. Il va falloir qu'il mette autour de lui une structure aussi où il va pouvoir lui être à l'aise parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de politique à ce niveau-là en Formule 1. Mmh. Et bon, du côté de Max Verstappen, on est plutôt bien structuré aussi. Donc il va vraiment, il y a peut-être eu un problème de l'équipe, mais il va vraiment lui qu'il soit peut-être qu'il sort les crocs parce qu'il va pas falloir se laisser faire et il va vraiment vraiment falloir que il va falloir qu'il montre que il est pas là pour attendre les conseils de l'équipe. Il va falloir qu'il prenne aussi des décisions. Il va falloir qu'il soit aussi vite que Max. Et s'il avait été un peu devant Max, le problème serait pas arrivé.
Bien sûr.
Il va falloir que voilà, donc c'est une première course. Il faut, mais attention, c'est un top team là. On lui demande d'être ultra performant. Donc on va pas lui laisser beaucoup de grands prix pour comprendre comment ça fonctionne.
Patrick Lemarié, l'ancien pilote d'essai de Bar F1, est avec nous dans Motors en direct sur RMC. Moi, j'ai quand même envie de vous demander, puisque vous parlez de Pierre Gasly, est-ce qu'il en a la capacité justement d'aller chercher comme ça Max Verstappen, surtout fondamentalement. A priori, il en a la capacité. Sinon, Red Bull l'aurait pas embauché. Parce que là, vous semblez quand même dresser d'ores et déjà un portrait un peu, enfin une situation dramatique. Quoi.
Non, pas du tout. Au contraire, moi, je pense que Pierre est largement aussi vite que Max Verstappen en performance pure.
Ouais, je le pense aussi.
Et s'il est là, il y a aucun doute sur ses qualités. Et c'est un très grand pilote. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire.
Non, mais voilà, qu'on soit clair.
Bien au contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est que d'être chez Toro Rosso et de faire de la performance, marquer quelques points, et d'aller tous les week-ends être se battre pour la pole position, gagner des grands prix et gagner un championnat, c'est pas du tout la même approche. Et on lui fera pas de cadeau. Et à côté de lui, il a une structure très forte avec Max Verstappen, avec son père, avec l'appui. On a vu un peu l'année dernière avec Ricardo. Donc même quand Max faisait des erreurs, t'avais toute l'équipe et tout Red Bull qui le soutenait. Et ça peut être perturbant. Et c'est ce jeu politique qui va être dangereux pour Pierre.
Bien sûr.
Performance pure, je suis largement capable de battre Max Verstappen sans aucun problème. Moi, je pense. Ce qui m'inquiète, c'est la façon dont l'équipe va gérer le Max Verstappen et Pierre Gasly dans le garage. C'est ça.
Voilà, je suis entièrement d'accord.
Évidemment. Non, mais c'est clair. Mais voilà.
Non, mais t'avais raison. La question. Elle est très claire. Et effectivement, moi, je pense qu'il a largement le potentiel. D'ailleurs, en essai privé, il s'est approché à un dixième et demi à peine des temps de Verstappen. Quand on connaît la rapidité de Verstappen, effectivement, dans cette équipe où Patrick vient de le rappeler, il est chez lui, hein. Vraiment, c'est le phénix. On attend de lui des victoires et un titre un jour. Donc, c'est clair que là, la cohabitation va être féroce et il faut que Pierre sorte la hache, là. Alors, on en vient à Ferrari.
Il faut qu'il sorte la hache et il faut qu'il y croit surtout parce que on l'a vu avec Ricardo. Max, il fait encore pas mal de fautes. Quand il a fallu gagner des grands prix et que la Red Bull était compétitive, c'est Ricardo qui les a gagnés.
Ouais.
Et donc il y a la place pour Pierre.
Hein. Absolument.
Mais il faut. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout ce que je veux dire. Pierre, il a largement le talent pour battre Max, mais il faut qu'il comprenne aussi le jeu politique. Et ça, il va falloir faire ses carapaces et on va pas lui laisser beaucoup de temps. C'est juste ce que je suis en train de dire.
Absolument. Alors on en vient à Ferrari, le gros morceau. Et là aussi, tu me vois venir, évidemment, Patrick. On en a parlé hors antenne. Vettel termine quatrième. Bon, déception globale sur le niveau de performance des Ferrari, surtout après les essais hivernaux. On les attendait évidemment tout en haut, hein, au niveau des Mercedes et même des Red Bull. Et puis on a vu en fin de course des consignes carrément passer pour calmer Charles Leclerc. Alors lui, on peut dire qu'il est déjà au niveau de Vettel. T'es d'accord avec ça ?
Moi, je pense qu'il était un petit peu en dessous pendant tout le week-end.
Ouais.
Il faut faire attention parce que Ferrari ont fait des bons essais, mais en performance pure, Mercedes a été aussi vite qu'eux à Barcelone pendant les essais hivernaux. Donc oui, Ferrari est bien. Ils ont très très mal géré la gomme rouge en Australie et on a vu Vettel qui a changé ses pneus très rapidement. Donc il y a, je pense que les consignes, elles sont pas arrivées en course, elles étaient déjà établies depuis pas mal de temps et il a fallu gérer. Et oui, Charles était un peu plus vite en fin de course parce qu'il avait des pneus plus frais, mais il faut faire attention à ce genre de choses et je ne pense pas que il y ait le feu chez Ferrari. Ils sont un petit peu loupés, je pense, en termes de réglage avec l'exploitation des pneus en Australie.
Ouais.
On va voir ce que ça donne, mais je pense qu'à Bahreïn ils vont vraiment remettre les pendules à l'heure
sur un circuit plus classique, évidemment, hein, Bahreïn et puis la Chine, et on attendra peut-être même Barcelone, hein, le quatrième Grand Prix et l'arrivée en Europe où traditionnellement on a des nouveautés qui apparaissent. Alors si on continue à dérouler, je peux pas ne pas te faire parler de Renault, où on peut dire que malheureusement la course dès le départ de Ricardo a été on va dire complètement oblitérée, complètement gâchée par cet aileron qui s'est barré. Et on peut voir que du côté d'Hülkenberg, il relève le gant, hein. On pensait que Ricardo allait peut-être l'exploser, mais c'est pas le cas.
Bon, Hülkenberg, c'est super vite, hein. Moi, je suis quand même je suis un fan de Hülkenberg. Hein. C'est un garçon qui est ultra vite.
Vainqueur du monde.
On a toujours un doute parce qu'on ne sait pas. Là, on va avoir l'heure juste, hein, parce que Ricardo, il a gagné les grands prix, il a fait des pôles. Donc là, on va. Mais je pense que c'est un très beau duo pour Renault. très beau duo de pilotes, très complémentaires, des garçons d'expérience qui travaillent. Maintenant, il faut voir sur la durée du championnat. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas vu Ricardo en course, parce que c'est aussi une de ses grosses qualités, même s'il est capable de faire des pôles en course. C'est un des pilotes qui dépasse le mieux de tout le paddock. Donc voilà, à voir. Mais je pense que le duo de pilotes chez Renault va être très intéressant cette année.
Allez, Patrick, c'est promis. Puis d'abord, ça nous intéresse. On va parler de Feed Racing que tu as créé avec Jacques Villeneuve. On rappelle quand même, mais tout le monde le sait, champion du monde de Formule 1 en 1997 avec Williams Renault. Alors, c'est très original ce que vous avez créé comme méthode de sélection. On va dire d'abord réservé à des jeunes de 14 à 21 ans, des hommes et des femmes de toute nationalité. Et ça part sur 5 jours de stage. Ça se passera à Magny-Cours, hein. Tu peux nous raconter comment ça va se dérouler. C'est dès le mois d'avril.
Oui, ben Jean-Luc, écoute, nous on a rien vraiment inventé, hein. On a essayé de remettre au goût du jour les sélections qu'il y avait dans les écoles de pilotage qu'on avait à notre époque dans les années 70, 80, 90, qui, je crois même que un petit clin d'œil à Patrick Tambay, qui était le premier lauréat de ces écoles et qui a été il en a suivi de tous les pilotes français et autres.
Absolument.
Qui ont fait toutes ces écoles, et c'était vraiment un réservoir fantastique pour les jeunes, parce que on paye son stage. On garde les meilleurs, nous on va garder les 48 meilleurs de l'année, on va faire des quarts de finale, on va en garder 24, on va faire une finale, on va en garder 5, et le lauréat, on va lui offrir une saison en Formule 4, dans une équipe, soit en Angleterre, soit en Italie, on est en train de décider.
Ouais.
Donc c'est vraiment la possibilité, quand on voit les prix du kart en ce moment, où c'est 50 000, 100 000, voire 200 000 euros la saison, nous venir faire l'école de pilotage, ça reste toujours un sport qui est cher, mais au moins c'est abordable, et si on gagne, si on a le talent, et ben on a une vraie solution. Donc c'est vraiment une sélection par le talent, et on est très fiers d'avoir remis ça au goût du jour.
Oui, c'est vrai qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alors, il y a 96 places disponibles, hein, c'est ça. Combien vous allez accueillir d'élèves ou de postulants, en tout cas, pour le premier stage?
Bah nous, pour le premier stage, on a acheté 7 Mégales.
D'accord.
Avec des moteurs Renault.
Qui sont des monoplaces, on le rappelle, de Formule 4.
Qui sont des Formule 4. Donc nous on va faire des groupes entre 14 et 24 élèves. Ça dépend le moment dans la saison, parce qu'on a des sessions entre avril et août. Donc on accueille les élèves. Il y a quelques places là pour le week-end de Pâques. Et puis ensuite de ça, on garde les meilleurs de chaque stage. On en garde trois meilleurs de chaque stage, et ensuite on garde, nous on sélectionne les 40 meilleurs sur les chronos, et puis on a 8 en plus qui sont sélectionnés par Jacques et moi, suivant leur expérience, parce qu'on a des jeunes qui ont fait beaucoup de cartes, d'autres qui en ont fait moins, on a envie, ce qui nous intéresse c'est de voir aussi la marge de progression qu'ont les élèves, et on se permet de sélectionner en quart de finale peut-être un élève qui a beaucoup moins d'expérience et qui a une progression incroyable, donc synonyme de talent. Donc voilà, et ensuite de ça, on sélectionne dans nos stages. Voilà.
D'accord, et pour s'inscrire, évidemment, c'est feedracingfrance.fr. Il y a un numéro également, 03 86 21 86 34. Mais tu m'as dit qu'en plus, Jacques s'impliquait beaucoup. Hein. Jacques Villeneuve s'impliquait beaucoup. Il sera vraiment là.
On s'implique beaucoup, tous les deux. Donc oui. Nous, c'est vraiment un projet commun dont on réfléchit depuis pas mal de temps. Et c'est pas un projet à court terme, c'est un projet à très long terme, où avec Jacques, on va être impliqué à 100% dans ce projet, non seulement déjà pour la détection des jeunes, puisqu'on sera tous les deux à Pâques au premier stage pour voir notre premier groupe d'élèves, et puis on sera là à tous les stages, en quart de finale, les quarts de finale, les demi-finales, les finales, et puis ensuite, l'année prochaine, on va suivre aussi notre pilote, voir comment il évolue, et puis le suivre. Non, c'est vraiment une implication de tous les deux, et de Jacques, malgré son emploi du temps chargé, il va passer beaucoup de temps pour Feed Racing.
Eh ben écoute, c'est absolument génial, et justement le lot, ça représentera quand même 400 000 euros, une saison complète en Formule 4, c'est super. Merci beaucoup Patrick Lemarié d'avoir été avec nous dans Motor, c'était un plaisir.
Merci, c'était bien sympa.
Allez, merci infiniment. Donc Patrick Lemarié, ancien pilote d'essai de barre Formule 1. Voilà, on est équipé pour le début de printemps en Formule 1. On sait tout.
Bah tu vois.
Et on a compris que surtout Pierre Gasly allait remporter un Grand Prix cette saison.
Il n'y a pas de raison. Bon, lui et Charles Leclerc. Moi je veux bien signer. signé. Ils en auront un avant la fin de la saison et peut-être plus.
Fabuleux, ça, ce que tu dis. Ça va donner envie de t'écouter tous les dimanches et tous les samedis pour l'essence de qualif et les grands prix. 13h41, Motors revient dans un instant sur RMC. Il nous a rejoint, Benoît Boutron. Il a plein d'infos aujourd'hui. Alors, les paddocks Mister de Formule 1 sont fermés, mais lui, il est pas fermé, hein. Radio Paddock.
Il est ouvert tout le temps, Benoît.
Sur RMC, 13h42.
Salut.
RMC Motors Arnaud Souk, Jean Lecroix.
La dernière ligne droite de Motors jusqu'à 14h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 13h43. Dans un instant, on lira dans le paddock de Benoît Boutron qui a plein de choses à nous dire. Mais un petit détour tient par la Norvège, Oslo, parce que se déroule la dernière épreuve féminine de la saison en Coupe du Monde de biathlon sous les yeux de Jordan Olivier. La mass start sur le point de démarrer, Jordan.
Salut Arnaud, salut à tous. Effectivement, c'est sur le point de débuter cette mass start dame avec 4 Françaises, Anaïs Bescon, Célia Aymonier, Julia Simon et Justine Brezaz, mais ces Françaises qui n'ont plus rien à jouer, que ça soit au général ou dans ce classement de Mastart. En revanche, il y a du suspense, c'est pour le général avec Dorothea Wierer, l'italienne, qui pourrait remporter son premier gros globe de cristal cet après-midi. Alors, l'équation est un peu compliquée, je vais essayer d'être le plus simple possible pour la résumer. Il faut l'italienne qu'elle soit dans le top 6, a priori. Si elle est dans le top 6, elle sera assurée de remporter son premier gros globe de cristal. En revanche, il y a sa compatriote qui est derrière, qui est Lisa Vitozzi, qui peut encore espérer remporter ce gros globe de cristal. Dans cette possibilité, il faudrait que tout simplement Dorothea Wierer soit hors du top 6 et que, évidemment, Lisa Vitozzi s'impose cet après-midi. Il y a donc du suspense, ouais. Et ça devrait débuter d'ici 2-3 minutes maintenant.
Du suspense, c'est beaucoup de monde derrière toi, je l'entends. À tout de suite, Jordan. Donc pour cette Mastart d'Oslo en Norvège, tout de suite à Radio Paddock.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
World Champion, notre champion du monde, Benoît Boutron est là. Salut Benoît, ça va?
Salut Arnaud, salut Jean-Luc.
Salut,
ça va,
Benoît. Très bien, impeccable.
Bon, on s'en fiche.
Il est pas obligé de nous remercier toutes les semaines, Sébastien Vettel, hein. C'est...
Oui.
C'est pas grave, on le veut pas.
Non.
Radio Paddock sera toujours là, même s'il nous remercie pas.
Oui, oui. Bah écoute, il est poli, hein.
Bah, il est bien élevé.
Allez, tiens, justement. Tu parles de Sébastien Vettel. Parlons de Formule 1 dans ce Radio Paddock avec le Grand Prix à Miami. Pour l'instant, ça n'existe pas, mais ça pourrait exister, justement, en Floride.
En tout cas, on en saura plus la semaine prochaine, jeudi précisément, puisqu'il y aura un rendez-vous très important. Il y aura un vote entre les 3 parties qui doivent se mettre d'accord pour savoir si oui ou non il y aura bien un Grand Prix à Miami. Et c'est important puisque ça concernera quand même la période 2020-2029. Donc c'est un sacré engagement pour la ville floridienne. C'est pas gagné. On vous rappelle les parties qui doivent se mettre d'accord. Le promoteur, déjà, South Florida Racing. La ville de Miami, qui est a priori favorable à ce Grand Prix. Mais il y a également le Bayfront Park Management Trust. Donc, c'est en fait, c'est la société qui gère les terrains sur lesquels va passer le Grand Prix. Ouais. Donc, il faut vraiment l'accord de cette partie pour que le Grand Prix puisse naître. Et c'est vrai que quand on regarde le tracé, Jean-Luc, on en parlait juste avant le début de l'émission, ça ressemble un peu à un Grand Prix de Formule E. Oui. C'est vraiment histoire. Histoire de dire, on met un Grand Prix voilà à Downtown, ouais. Dans Miami pour aller sur le port de Miami ensuite. Les images vont être fantastiques.
Ouais, après, c'est ça qu'on veut aussi. Non
ouais, pour l'intérêt sportif, c'est mais pas sûr que ce soit à la hauteur.
Ah, pour l'intérêt sportif, quand on voit, excusez-moi, mais quand on voit le Grand Prix de Monaco, le tracé, je touche à un tracé qui fait 3,5 km.
Oui, mais c'est désolé. Oui, mais t'as tellement de difficultés. La complexité naturelle, effectivement. Alors, je comprends que tu puisses penser ça, parce que c'est un tracé en ville également. Non, mais Monaco, il y a des courbes rapides, il y a quand même toute cette montée qui est extrêmement délicate. Il y a des endroits stratégiques.
Je mets le
très 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 pointu.
Je pose les questions.
Très particulier. Tu as raison. Alors que là,
pour schématiser en fait le circuit de Miami, c'est une grande ligne droite sur un pont donc qui traverse downtown, donc le centre de Miami, et une île où il y a le port de Miami.
C'est magnifique.
C'est magnifique.
La vue est magnifique.
Ce ne sont que des virages ensuite, quasiment en angle droit. Donc malheureusement pour les dépassements, ça sera assez compliqué et on risque d'assister à un Grand Prix sans vraiment de suspense. Après, on verra d'ici là.
Alors, on sait que pour Liberty Media, qui est le nouveau propriétaire de la Formule 1, des droits commerciaux de la Formule 1, c'est un véritable challenge, puisqu'évidemment, c'est une société américaine. Et avoir un deuxième Grand Prix aux États-Unis, là aussi, c'est un peu le monstre du Loch Ness, même si le Loch Ness, c'est plutôt du côté de l'Écosse, si je ne m'abuse. Mais là, c'est un projet qu'on a vu apparaître du côté de New York longtemps. On y a cru. Et puis, on n'a pas pu mettre tout bout à bout. Et là, je crois que le problème, c'est un problèmes de financement également. Tout dépend des conditions. Évidemment. Est-ce qu'on les connaîtra vraiment, qui vont être mises en place pour favoriser l'émergence de ce nouveau Grand Prix? Tu me vois venir.
Ouais.
Parce que quand on demande 20, 30, 40, 50 millions de dollars à certains organisateurs dans certains pays, combien va-t-on demander à Miami et comment on va mettre en place le plan de financement? Ça, c'est une vraie question.
Et on rappelle donc, c'est important peut-être de préciser que ce Grand Prix n'a pas vocation à remplacer le Grand Prix d'Austin.
Ah non, pas du tout. Même si, à un moment, il y a eu des difficultés financières également il y a 2 ans, mais non, il est pérennisé. Non, ce sera un deuxième Grand Prix aux États-Unis.
Mais c'est une très bonne réflexion, hein, parce que on en parlait également avec Jean-Luc, la question du calendrier va se poser. Au niveau de l'image, comme disait Jean-Luc, ça paraît improbable qu'on ait 2 Grands Prix des États-Unis de suite, par exemple. On ne peut pas aller au Texas et ensuite en Floride. Pour l'image de la Formule 1, ce serait terrible. Il y a la Formule 1 qui veut se mondialiser. Donc, il va falloir trouver une date pour aller à Miami disputer ce Grand Prix.
Et on sait en clair que, bon, les mois, je dirais même du 15 juillet au 15 octobre, c'est pas possible. D'abord à cause de la chaleur qui est écrasante en juillet et août dans cette région et à cette période. Et puis après, il y a la période des typhons, des tornades qui frappent en général courant septembre et début octobre. Donc, il faut passer après ou avant. Donc, effectivement, la question du calendrier, c'est encore autre chose, même si on sait que l'ambition de Liberty Media, ce serait peut-être d'arriver à 24 ou 25 Grands Prix. Je crois qu'on n'en est pas encore là. On rappelait il y a pas très longtemps dans Motors également qu'il y en a 5 qui sont sur la sellette, des moindres. Pendant le financement,
notamment certains en Europe.
À 13h49, au sommaire de l'excellent Radio Paddock, c'est écrit sur ma feuille. Benoît, problème de visibilité.
Non mais c'est vrai, en plus.
Il le pense pas, c'est terrible. Alors. Il lit ce qu'on lui écrit. Quoi. Je remercie la personne qui a écrit cette feuille.
Je crois que c'est toi d'ailleurs.
Moi j'ai le formidable sur ma feuille cette
fois. Ça me va aussi.
Tu voulais nous parler de problème de visibilité.
Oui, exactement.
Pour des pilotes au départ.
On s'y attendait pas forcément, mais c'est ce qui s'est passé en Australie. Plusieurs pilotes, en fait, se sont plaints de la visibilité des feux de départ, forcément, puisque c'était caché par l'aileron de la voiture qui était juste devant au niveau de la grille. Ça a touché notamment Robert Kubica, qui est parti dernier, et qui a été gêné par l'aileron arrière de la McLaren de Carlos Sainz. Il a dit, en fait, j'ai eu un moment de panique, car je ne pouvais pas voir les lumières quand je me suis arrêté. L'aileron de la McLaren les cachait. Du coup, j'ai dû me décaler un petit peu pour pouvoir voir les feux rouges de départ. Ça a également touché le Français Pierre Gasly.
Absolument.
Qui, lui, malheureusement, a eu du mal à s'adapter et lui il a eu plutôt réagi par réflexe en voyant les autres partir. Il est parti aussi, ce qui te fait forcément perdre quelques dixièmes de seconde, Jean-Luc.
Et surtout à un moment crucial, donc c'est vraiment pas l'idéal. Alors la Formule 1 va essayer de réagir. On a parlé d'implanter des feux intermédiaires comme il y en a eu dans le passé également. Et puis je vais oser, je vous promets que c'est la dernière fois, mais parler du halo qui devra rien arranger. Et oui, parce que ça on l'avait évoqué dès l'an dernier en disant probablement quand on a cette barre devant les yeux un petit peu en hauteur, on comprend bien qu'en partie ça peut masquer la visibilité des pilotes, surtout pour voir des feux qui sont accrochés plus haut. Bon, on va le résoudre, il suffit de mettre une deuxième barre, une répétition des feux pour la deuxième moitié de la grille.
Ou une barre latérale, on pourrait trouver plusieurs solutions.
Ou une barre latérale. En tout cas, pour revenir à l'aileron arrière dont tu parlais à juste titre, il faut rappeler qu'il est plus important qu'avant, il fait 10 cm de plus en largeur, il est 7 cm plus haut. Malheureusement, quand on est en fond de grille, on est doublement pénalisé. Exactement. Espérons que dès Bahreïn, on va résoudre ce problème. Sinon, on a la triple peine.
Messieurs, vous vouliez parler également des accords Concorde dans ce Radio Paddock.
Oui, juste pendant qu'on était sur les dimensions, Arnaud, de changement de dimension pour les pneus Pirelli.
Oui,
ça va changer en 2021. On va passer de 13 à 18 pouces pour les pneus de Formule 1. Qu'est-ce que ça change concrètement, Jean-Luc, pour toi ?
Alors ça, c'était une demande de Michelin quand Michelin postulait pour revenir en Formule 1. Et c'est une demande un petit peu logique. Si tu regardes un pneu de Formule 1, maintenant on voit un tout petit moyeu. En fait, c'est la largeur de la jante. C'est en pouces, c'est exprimé en pouces, donc 13 pouces. C'est petit. Et puis on a beaucoup de gomme autour. Alors évidemment, si on met maintenant un diamètre de jante de 18 pour un développement du pneu qui sera sensiblement identique, on comprend bien qu'il y a beaucoup moins de gomme, donc on aura une plus grande rigidité des flancs de gomme, une plus grande stabilité, probablement des gonflages et des pressions de pneumatiques différentes, une manière de travailler différente. Bref, c'est une conception du pneumatique qui est plus d'actualité, on va dire, par rapport à ce qu'on voit sur la route, puisqu'on a vu également que toutes les voitures qu'on achète maintenant pour la route, eh bien, le diamètre des jantes a augmenté. Sur des voitures de route, on a des diamètres de 17, 18 facilement et même plus.
Donc si je comprends bien, ça peut être bien pour la gestion des pneus. On voit que beaucoup de pilotes gèrent leurs pneus pendant un Grand Prix. Là, il y aura moins de gestion à ton avis pour les Grands Prix avec des pneus.
Il faut laisser les ingénieurs travailler. Tu sais, un pneumatique, on dit toujours c'est rond et en caoutchouc noir, mais c'est tellement complexe à l'intérieur en matière de structure, en matière de gomme, d'échauffement, de qualité de gomme, etc. Oui, on peut penser que ce sera mieux, je vais dire globalement, parce qu'effectivement, peut-être la structure de la gomme sera plus rigide. Alors maintenant, tu sais que l'air également, même dans les pneumatiques de Formule 1, contribue en partie au confort, je vais pas dire confort pour le pilote, mais disons à la manière dont ça amortit également et dont ça maintient le niveau de la monoplace et l'assise de la monoplace. Donc là aussi, il y aura un travail à faire de mise au point qui devrait débuter en septembre si les équipes sont capables de fournir des mulets à Pirelli. Parce voilà. qu'on rappelle, c'est pour une application en 2021.
Exactement.
Les accords Concorde, Benoît.
Oui, ça c'est important, puisque les accords Concorde, oui, Jean-Luc va nous expliquer pourquoi ça s'appelle les accords Concorde, mais en gros, c'est tout ce qui régit les règles de la Formule 1. Et ça, c'est très important, puisque ça va changer dans les années qui viennent. Ça va également changer en 2021. Et évidemment, il va falloir décider de ces règles très rapidement. Chase Carey, qui s'occupe de tout ça, il a reconnu que juin serait la date limite pour trouver un accord sur tous les nouveaux règlements, que ce soit technique, baisse des coûts pour le paddock de la Formule 1. Ça concerne vraiment tout le milieu de la Formule 1. Donc il faut se mettre d'accord rapidement, également pour que les ingénieurs puissent bosser et préparer les voitures de demain.
Bah, c'est tellement important que ça engage carrément tout l'avenir de la Formule 1 voilà. à tout niveau. Alors on va évacuer l'aspect commercial tout de suite, on en a parlé avec les dates, etc. Et puis la redistribution naturellement des recettes de la Formule 1 auprès des écuries. On sait que deux ou trois d'entre elles sont à l'agonie carrément et qu'elles sont soutenues. On peut parler malheureusement de Williams qui est en fond de grille et qui est en très grave difficulté. On a vu Force India devenir Racing Point parce qu'il fallait qu'on la rachète. Enfin bon, on va pas épiloguer là-dessus. Puis on a vu des équipes disparaître très récemment. Donc effectivement, ce problème commercial, le problème technique également, parce que c'est de ça dont on parle. On a bien compris que le moteur allait très peu évoluer. Voilà. D'abord parce que les quatre constructeurs actuellement présents ne veulent pas qu'on bouge. Donc on va enlever juste un générateur électrique pour en garder un seul. On enlèverait, je crois, probablement celui qui concerne le turbo, mais on garderait celui qui concerne les freins. Je vais pas épiloguer dans tous les aspects. Alors pourquoi Concorde? C'était la question que tu posais. Parce qu'ils ont été signés Place de la Concorde, qui est le siège de la FIA, à l'époque, entre Jean-Marie Balestre, qui était président de la Fédération Internationale d'Automobile, et Bernie Ecclestone, et pour mettre fin à un conflit qui était un conflit très très dur, hein, entre les écuries de Formule 1, qui étaient représentées à l'époque par Bernie Ecclestone, qui était le patron de Brabham, et qui est devenu après le grand Manitou de la Formule 1. Voilà.
Jean-Luc, je te laisse un choix. MotoGP, IndyCar ou Formule électrique?
Écoute, on va dire, MotoGP, on en a parlé. Allez, je vais dire IndyCar parce que j'adore l'IndyCar.
Allez, oui. Car, voilà.
Et forcément, ça touche tout ce qu'aime Jean-Luc, l'automobile, les États-Unis, donc ça lui plaît forcément. C'est la grille de départ à Austin, hein, une course qui va se courir aujourd'hui. Et des mauvaises nouvelles pour les pilotes français, puisque il réalise un début de saison très compliqué. Simon Pagenaud va partir 22e, Sébastien Bourdais 17e. Et la règle est toute bête, mais c'est un concours de circonstances en fait. Lorsqu'on fait une qualification d'IndyCar, on part par paquet.
Voilà.
Et dès qu'une voiture sort de piste, eh bien ça vous fout en l'air votre tour de référence. Si vous êtes en train de le faire, puisque
et
il y a directement
on doit avorter ce tour.
Et on doit avorter le tour. Ouais. C'est ce qui est arrivé à Simon Pagenaud et c'est ce qui fait qu'il n'a pas pu faire de tour de référence, malheureusement pour lui. C'est Will Power qui va décrocher la pole et qui partira en tête donc tout à l'heure de ce Grand Prix d'Austin. Mais mauvaise nouvelle malheureusement pour les pilotes français.
Oui, puis on rappelle le classement du premier Grand Prix à Saint-Pétersbourg. Hein, c'était il y a deux semaines de mémoire. Ouais. C'est Joseph Newgarden avec une Penske également qu'il avait emporté devant Dixon chez Chip Ganassi et Will Power, le poleman du jour. Will Power qui a été champion et qui ça non enfin on voit que les gros bras sont devant là, hein. ça va être difficile pour les Français sur un circuit magnifique, c'est le circuit d'Austin, hein.
Circuit 60 tours.
Amériques. 60 tours, ouais. ça va être du sérieux.
Allez, on referme ce Radio Paddock. Merci beaucoup Benoît Boutron, on te retrouve dans quelques instants. Merci, dans Benoît. L'intégral sport évidemment pour le résumé toutes les demi-heures de l'actu sportive. Tiens, ben le sport, le direct de l'après-midi, c'est la Mastart d'Oslo en Norvège sous les yeux de Jordan Olivier. Mastart féminine, où en est-on Jordan?
300 déjà effectués, tout se passe bien pour Dorothea Wierer qui a réussi un 5 sur 5 sur son premier tir couché. Elle est cinquième avec un petit groupe composé de Berg, Fialkova, de Ruisselant et de Eckhoff. Et en revanche, Vitozzi a complètement décroché. Elle est 29e Vitozzi. Donc tout se profile parfaitement pour Wierer qui pourrait remporter son premier grand gros globe cet après-midi. Mais ce n'est pas terminé. On est à peine à 4,5 km. Il en reste encore environ 8.
Merci Jordan, la suite de cette course est dans un instant dans l'Intégral Sport. Merci.
Mais c'est toujours un plaisir. Salut Arnaud.
D'avoir été là. Mon tour se revient.
La semaine prochaine.
Même lieu, même heure, la semaine prochaine. 13h-14h, dimanche sur RMC, juste avant le Grand Prix de Bahreïn, effectivement, qui sera donc la semaine prochaine, la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1, 13h57. C'est Christophe Cessieux dans un instant qui prend le relais pour l'Intégral Sport jusqu'à 19h.